est 17h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Les blocages des agriculteurs se poursuivent en pleine crise de la dermatose nodulaire. Parmi les points les plus sensibles, la 63 et la 64. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, 93 actions de blocage sont en cours, mobilisant 4000 manifestants avec quelques 900 engins agricoles. Le ministre précise que les interventions des forces de l'ordre ne surviennent qu'en cas de dégradation. Pendant ce temps, le président de la coordination rurale assure qu'il ne lâchera pas le combat après son entretien avec Sébastien Lecornu à Matignon. Les syndicats agricoles sont reçus par le Premier ministre pour évoquer la crise de la dermatose nodulaire et le traité de libre-échange avec le Mercosur. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, annonce que le Premier ministre s'est engagé à fournir d'ici ce soir un courrier avec l'intégralité de ses intentions. Sébastien Lecornu en plein casse-tête sur le budget. Les députés et sénateurs de la commission mixte paritaire ne sont pas parvenus à s'entendre ce matin pour trouver un compromis. Le Premier ministre va donc devoir saisir le Conseil d'État d'un projet de loi spéciale pour pallier l'absence de budget. Le texte permettra d'assurer la continuité de l'État, notamment le prélèvement des impôts, avant une reprise des budgétaires en début d'année. Chine ne sera pas suspendue en France. Le tribunal judiciaire de Paris refuse de suspendre pour 3 mois la plateforme chinoise. L'État avait saisi la justice après la découverte de plusieurs produits illicites disponibles à la vente, notamment des poupées pédopornographiques. En foot, du changement à l'OGC Nice. Alors que les résultats ne sont pas au beau fixe, Fabrice Boquet quitte ses fonctions de président pour le remplacer. Deux anciens présidents niçois ont été sollicités, Jean-Pierre River et Maurice Cohen. Leur mission, relever le club après une série de 9 défaites consécutives. Et puis le Gard sera placé ce soir en vigilance orange, pluie, inondation. Météo France alerte sur un épisode pluvieux méditerranéen. Un événement qui n'est pas exceptionnel pour la saison, mais dont la durée et le risque de débordement nécessitent un suivi particulier. Voilà pour l'essentiel de l'été. Excellente fin d'après-midi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour avec vous, François-Xavier de Calonne et Mounir Kamouri. En pleine catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par la guerre, une incertitude pèse sur les organisations internationales. Elles devraient être fixées sur leur sort le 31 décembre prochain. Pourront-elles, oui ou non, apporter leur aide aux habitants de l'enclave? Les agences des Nations Unies et plusieurs ONG ont dénoncé hier un processus d'enregistrement qui repose sur des critères vagues, arbitraires et fortement politisés. Cela alors que 14 ONG venaient d'être interdites dans l'enclave palestinienne. L'inquiétude de Médecins du Monde entretient avec la directrice des opérations internationales de cette organisation humanitaire, Élise Le Sieur.
L'ensemble des organisations, on attend à cette date des réponses sur un enregistrement potentiel près de l'État israélien. C'est le cas pour l'ensemble de nos opérations à travers le monde. On a besoin de s'enregistrer pour pouvoir travailler dans les pays. Et cette année, ça il a été extrêmement complexe et l'État israélien a mis énormément de barrières pour que j'ai puisse s'enregistrer afin de travailler à Gaza notamment, mais aussi en Cisjordanie. Et c'est au 31 décembre qu'est la deadline pour obtenir cet enregistrement. Et sans cet enregistrement, les ONG internationales ne pourront pas opérer ni à Gaza ni en Cisjordanie. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délivrés dans ces zones.
Vous, par exemple, à Médecins du Monde, vous restez dans l'incertitude d'ici le 31 décembre ?
Absolument, on reste dans l'incertitude. Ce qui a freiné, ça a été énormément de difficultés administratives qui ont été rajoutées ces derniers mois. Les prises de parole pour dire et dénoncer ce qui se passe à Gaza, c'est sûr, ça a eu potentiellement des effets négatifs sur nos enregistrements, mais aussi nous avons refusé de partager des informations qui pourraient mettre en danger nos équipes. Et puis, on sent depuis le début énormément de barrières, mais tout au long du conflit, sur nos capacités à délivrer de l'aide, le blocus, les blocages des camions. Donc, on voit que les entraves à l'aide humanitaire et au droit humanitaire international continuent de subsister, même après le cessez-le-feu.
Et travaillez-vous avec des humanitaires qui vivent dans la bande de Gaza ?
Oui, l'intégralité de nos équipes sont des humanitaires qui viennent de Gaza ou de Jordanie. Donc c'est des collègues qui sont eux-mêmes victimes civiles de ce conflit et qui continuent à délivrer de l'aide. Ces personnes ont été notamment, parfois elles ont déménagé, ont déplacé 6 à 7 fois depuis le début du conflit, elles vivent sous tente, elles sont fatiguées, il y a beaucoup de désespoir hein, face à ces situations, la vie est très chère, la vie est difficile, et pourtant elles continuent à délivrer de l'aide. Les équipes de Médecins du Monde aujourd'hui font à peu près 45 000 consultations par semaine.
Quels sont les principaux besoins d'un point de vue médical aujourd'hui? Est-ce lié à des blessures, des maladies qui peuvent se propager?
Il y a encore des personnes qui sont blessées, notamment liées à des tirs. Il y a une espèce de ligne jaune de démarcation à l'intérieur de Gaza, et quand les personnes s'en approchent, elles se font tirer dessus. Hein. Il y a eu déjà 370 morts côté palestinien depuis le cessez-le-feu. Donc on continue de traiter des blessés par balle, mais aussi des blessés liés aux conditions de vie hein, qui sont difficiles. Il y a aussi d'importants risques infectieux, notamment liés aux maladies hydriques, liées au manque de capacité d'hygiène et d'assainissement, mais aussi des maladies respiratoires et les maladies de l'hiver. Je vous le disais, il y a des enfants qui meurent de froid, donc toutes les maladies infectieuses liées à l'hiver. Et puis, il y a des risques importants encore épidémiques. Pourquoi ? Parce que la vaccination s'est arrêtée au début de la guerre.
Malgré le cessez-le-feu, lorsque l'on vous écoute, l'on comprend que la bande de Gaza, ses habitants, continuent de vivre une situation tragique, comme si la guerre se poursuivait.
Oui, tout à fait. Les besoins restent malheureusement les mêmes. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a encore régulièrement des décès liés à des affrontements. Donc même si les bombardements très intensifs ont cessé sur la bande de Gaza, les besoins et les demandes des populations restent les mêmes. Et Médecins du Monde vraiment appuie sur le fait qu'on demande que le droit humanitaire soit respecté et qu'on puisse faire notre travail, c'est-à-dire soigner ces populations qui sont très affectées.
C'était Élise Le Sieur, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde. Place au sport avec Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir.
Alors vous revenez avec nous sur la victoire du Maroc lors de la Coupe arabe FIFA 2025 organisée au Qatar. C'est bien entendu du football. Alors Mounir, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette Coupe?
Oui, c'est un succès important et même plus que symbolique. Le Maroc s'impose 3-2 face à la Jordanie au terme d'une finale vraiment intense. L'équipe était dirigée par Tariq Sektioui, ancien international marocain, qui a apporté sa rigueur et son sens du collectif. Les Marocains ont ouvert le score sur un magnifique lob de 50 mètres d'Oussam Tanane avant que la Jordanie ne renverse la rencontre. Et évidemment, il y a l'homme du match, le héros de la soirée, Abderrazak Hamdallah, auteur d'un doublé dans les moments chauds, d'abord en fin de match, puis en prolongation. C'est le deuxième titre arabe de l'histoire du Maroc après 2012. Les Lions de l'Atlas rejoignent donc l'Arabie Saoudite comme deuxième nation la plus titrée, à deux sacres de l'Irak en tête. Donc oui, c'est un vrai moment fort.
Oui, ce qui est intéressant, c'est la temporalité, Mounir. Cette victoire arrive à 2 jours du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut donc lui donner un sens particulier.
Et oui, elle tombe au moment parfait, mais elle ajoute aussi du poids. D'un côté, ça crée une dynamique positive, le football marocain gagne, il assume, il avance. Mais de l'autre côté, ça rajoute une pression sur l'équipe de Walid Regragui. Le pays atteint un titre continental depuis 1976, et là, tout le monde se dit que les coéquipiers d'Achraf Hakimi doivent suivre la même voie. Donc oui, ça encourage d'un côté, mais ça augmente aussi l'obligation de performance.
Alors précisément, elle vient d'où cette pression ?
Elle vient du contexte. Le Maroc a joué une demi-finale de Coupe du Monde en 2022, rappelez-vous, un exploit historique, un parcours historique. Ensuite, on l'évoquait, donc cette Coupe arabe FIFA où le Maroc a ramené le trophée, et cette CAN qui se joue à domicile devant son public qui rêve d'un sacre. Tout ça, ça crée un climat où le Maroc doit non seulement bien jouer, mais gagner.
Merci Mounir. On vous retrouve à 18h15 dans Sport sans frontières, spécial Cannes 2025. Merci à vous pour votre écoute. Merci à Mohamed Bizri à la réalisation. C'était François-Xavier de Calonne et Mounir Kamouri. Excellente suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.